Toute la semaine, je suis resté assez interpellé, voire bloqué, pour dire quelque chose de l'attitude de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Car le début de l'évangile que nous avons lu dimanche d'avant, on voit qu'il donne le programme de sa venue, il déclare qu'il est celui qui était attendu, et il donne un programme magnifique, ce qui fait que tous ceux qui étaient là avaient les yeux suspendus à ses lèvres, c'est-à-dire qu'ils écoutaient sa parole, ils étaient vraiment dans une grande, grande attente. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Et il donne les deux exemples des personnes qui ont été guéries alors qu'elles n'étaient pas juives. Et alors du coup, toute l'assemblée de la synagogue rentre dans la furie et ils veulent le tuer. Qu'est-ce qui a fait que Jésus n'est pas resté sur cette dynamique qu'ils avaient tous ils étaient de grande attention à ce qu'il allait dire. La différence de leur attitude, là, de l'assemblée, et ceux qui étaient à Capharnaüm, c'est-à-dire avant qu'il n'arrive, sa réputation l'avait déjà précédé. Et on savait que Jésus avait fait beaucoup de miracles et de guérisons à Capharnaüm. Et donc ils étaient tous dans l'attente par rapport à ça. C'est que là-bas, à Capharnaüm, les gens valides apportaient leurs malades. Ils y croyaient pleinement. Et du coup, Jésus, s'appuyant sur leur foi à eux, c'est ça qui est phénoménal. Dans toutes les guérisons, Jésus, voyant leur foi, hein, souvent c'est dit ça, qu'il aille selon ta foi. Jésus n'est pas un magicien, Jésus se met au diapason de son interlocuteur. Alors que là, dans la synagogue, il y a cette petite parole qui casse la dynamique, c'est le fils de Joseph, le charpentier. C'est-à-dire, ben, on le connaît. Donc c'est pas lui qui va être le Messie. Et ça les interdit de donner leur adhésion à ce qu'ils viennent d'entendre. Ils se réduisent, en fin de compte, ils viennent là à la synagogue autour de Jésus pour acquérir un savoir. Ils voudraient un peu dominer la situation. Et c'est pour ça qu'après, ils sont mécontents et qu'ils vont à l'opposé de ce qu'ils auraient dû faire. Voilà, donc je suis vraiment resté beaucoup là-dessus. Mais ça nous interpelle pour savoir de quelle manière je m'implique dans ma foi en Dieu, dans ma prière. Est-ce que je le dis comme ça, histoire de me rassurer, de me dire, ben voilà, j'ai fait ma part, ou est-ce que je suis vraiment impliqué dans ma manière de m'adresser au Seigneur? Hier après-midi, il y a une amie qui me disait, ah, ô combien les passages de la parole de Dieu sont très beaux aujourd'hui. Et du coup, j'ai relu un peu différemment les autres passages, c'est-à-dire du livre de Jérémie et les Corinthiens. Et c'est vrai que Jérémie, il y a ce très beau passage, dès avant ta conception, je t'ai mis à part. C'est-à-dire une relation très intime de Dieu avec la personne concernée. Nous savons aujourd'hui, avec notre foi de chrétien, que la parole de Dieu peut rejoindre chacun d'entre nous. Est-ce que je prends le temps d'enraciner ma vie dans cet amour de Dieu dès avant ma conception? C'est phénoménal quand je prends le temps de m'y arrêter. Dès avant ta conception, je suis aimé de Dieu. J'aime cette petite explication dans le monde musulman. Il est dit que quand un bébé naît, il rencontre son ange qui lui raconte toutes les merveilles de Dieu, tout ce qu'il va pouvoir faire de beau avec sa propre vie. Mais l'ange, en finale, termine en, en posant son index sur les lèvres de l'enfant pour lui dire « Chut, ne parle pas de tout ça dans ce monde, car ils ne savent pas l'accueillir. » Et c'est pour cela que nous avons la lèvre supérieure qui est un peu ondulée. C'est la marque du doigt de l'ange qui nous accompagne. C'est un peu notre manière de dire plusieurs enseignements de Jésus. Il enseigne en secret et ainsi de suite. Mais donc Jérémie nous invite à ne pas avoir peur, en tout cas ce que dit Dieu à Jérémie, « N'aie pas peur, tu vas mener un combat, ça ne va pas être facile, mais je suis avec toi. Si tu ne trembles pas, c'est eux qui trembleront. Mais si toi tu trembles, c'est eux qui gagneront. » Donc, il nous invite à être très très bien enracinés pour bien tenir droit sur nos deux jambes et qu'on ne se laisse pas démonter par la moindre petite parole qui va commencer à nous attaquer, à être en différence de nous. Enfin, le passage de la lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, ce que nous appelons traditionnellement l'hymne à l'amour, c'est vrai que c'est une merveille. Vraiment une merveille. Surtout que Paul nous dit « Je vais vous indiquer le chemin par excellence ». Voilà, donc il nous propose un chemin de maturation, un chemin d'élévation vers Dieu. Il commence par enlever ce qu'il ne faudrait pas. 5 fois de suite, il dit « j'aurais beau ». J'aurais beau être prophète, j'aurais beau distribuer toute ma fortune, j'aurais beau avoir une foi, ainsi de suite. Il nous dit « il y a des fausses routes ». Car dans ces 5 « j'aurais beau », ça se termine toujours si, « s'il me manque l'amour ». Et donc l'une des définitions, c'est « s'il me manque l'amour, je ne suis rien ». C'est-à-dire qu'il nous montre notre identité sur notre chemin de vie. C'est carrément notre identité qui est en jeu. Parce que quand même, quelqu'un qui donne toute sa fortune aux affamés, c'est beau. Eh bien lui, il dit « ça ne vaut rien ». Carrément, ça ne vaut rien s'il me manque l'amour. Et on entend facilement la petite Thérèse qui dit « il faut tout faire par amour ». Le moindre petit geste, la moindre petite action, la moindre petite parole, j'ai à la faire avec amour, sinon ça ne vaut rien. Et ensuite, il va donner 15 caractéristiques de l'amour. Vous imaginez ? Et comme c'est des choses en suivant, malheureusement, souvent dans les assemblées, on le lit rapidement. Or, il nous faudrait lire chacune de ces caractéristiques de l'amour suivie d'un temps de méditation pour chacune d'entre elles. C'est-à-dire prendre cet hymne à l'amour comme un temps de relecture de vie. Paul nous propose un chemin pour aller vers l'excellence. Comme tout bon randonneur, nous avons une carte pour regarder d'où on vient, repérer où nous sommes et savoir où nous allons et comment y aller. Eh bien là, prendre ces 15 caractéristiques de l'amour et vraiment poser un temps de méditation fort. Est-ce que parfois je ne jalouse pas ? Est-ce que parfois je ne cherche pas un petit peu à me montrer ? Est-ce qu'il ne m'arrive pas de m'emporter vis-à-vis des autres et ainsi de suite ? 15 caractéristiques pour savoir si je suis sur le chemin de Dieu. Oui, on trouve souvent que cet hymne à l'amour est magnifique, mais il me semble que très vite on le laisse de côté parce qu'il nous dérange. Parce que oser vivre ces 15 caractéristiques, ça demande énormément d'énergie. Ça demande une grande résolution intérieure. Ça nous demande d'être des passionnés à tout instant. Est-ce que notre vie est passionnante? Est-ce qu'il y a le feu de Dieu dans ma journée? Enfin, il nous dit que... Alors d'abord, il nous dit quand même que l'amour ne passera jamais. Hein, c'est le plus grand des trois vertus théologales. Hein, il dit bien... Il y a la foi, l'espérance et la charité, ça c'est ce qui demeure aujourd'hui, et la plus grande des trois, c'est la charité. Mais il nous propose juste avant qu'il y a différentes choses qui sont actuelles, mais ce n'est que partiel. Donc je n'ai pas à m'accrocher à des choses qui ont peut-être à dépasser. Je peux aller plus loin, je peux... lâcher certaines certitudes qui me donnaient soi-disant une sécurité, mais peut-être aussi qui m'empêchent d'aller plus loin. Alors soyons dans la joie d'aller à la rencontre du Seigneur, de découvrir, oui, il a été le fils du charpentier, mais c'est pas cela qui l'empêche d'être aussi notre Seigneur, notre Sauveur, l'envoyé de Dieu. C'est lui sur qui je veux baser toute ma vie, et cheminer avec lui pour aller vers la gloire du Père.